Afrique, les infos à Washington.
Bonjour, Eric Manilakiza avec vous au micro. Il est 4h du matin ici à Washington DC. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce vendredi sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Dans une lettre adressée mercredi aux membres du Conseil, Antonio Guterres a invoqué explicitement l'article 99 de la Charte des Nations Unies qui permet au secrétaire général d'attirer l'attention du Conseil sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Une première depuis des décennies. Par ailleurs, le président américain Joe Biden a affirmé jeudi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qu'il était essentiel de protéger les civils alors que de violents combats urbains font rage dans et autour des plus grandes villes de Gaza, a annoncé la Maison-Blanche. Le retrait de la force est-africaine déployée dans l'est de la RDC s'est poursuivi ce vendredi avec le départ de Goma de quelques 250 soldats sud-soudanais. Une deuxième rotation est prévue plus tard dans la matinée. Près de 300 soldats kenyans de cette force, dont le mandat s'achève ce 8 décembre, avaient déjà quitté la capitale provinciale du Nord Kivu dimanche dernier. Outre des soldats kenyans et sud-soudanais, cette force comprend également des soldats ougandais et burundais qui devraient aussi partir dans les prochaines semaines, selon une source sur place. Les officiers partiront les derniers. Kinshasa a refusé le renouvellement de cette force, la jugeant inefficace. Son départ intervient alors que des combats continuent d'opposer le M23 à l'armée congolaise, appuyée par des miliciens dits « patriotes ». L'Union européenne réduit sa mission d'observation électorale en RDC pour les scrutins du 20 décembre à 8 experts qui seront basés à Kinshasa, selon le porte-parole du chef de la diplomatie européenne. Les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales prévues ce jour-là verront la participation de Félix Tshisekedi et une vingtaine d'autres candidats avec la surveillance de la société civile, des églises congolaises, du centre Carter et d'une équipe de la SADC. L'Assemblée nationale au Burundi a largement approuvé la composition de la Commission électorale nationale indépendante malgré les protestations de l'opposition dénonçant une violation de la procédure. Le nouveau président de la CENI, Prosper Ntahogwamiye, déjà validé par le Sénat, suscite des critiques, notamment des députés du principal parti d'opposition, le Conseil national pour la liberté, qui ont boycotté le vote. Le Zimbabwe tient samedi des élections législatives partielles. La quasi-totalité des candidats de l'opposition ont été interdits de participer. Harare a tenu des élections générales en août. Il n'a manqué que 10 sièges au parti au pouvoir, la ZANU-PF, depuis l'indépendance en 1980 pour décrocher la majorité des deux tiers et être libre de réviser les lois du pays. L'Égypte se prépare à une élection présidentielle sans surprise qui devrait voir le président sortant Abdel Fattah al-Sissi remporter un troisième mandat malgré la grogne sociale qui monte sur fond de graves crises économiques. Du dimanche au mardi, les Égyptiens de plus de 18 ans auront à choisir entre quatre candidats. Depuis le bombardement accidentel des civils dimanche dernier dans le nord-ouest du Nigeria, l'armée est sous le feu des critiques de la société civile qui réclame une enquête approfondie, voire des sanctions contre les militaires. Au moins 85 personnes sont mortes et 66 ont été blessées selon les sources officielles. L'Amnesty International a avancé de son côté un bilan de plus de 120 morts. La présidente tanzanienne a visité les zones touchées par les glissements de terrain, déplorant la perte de vie de 76 personnes et signalant une nécessaire préparation gouvernementale pour anticiper de telles catastrophes. Parlant justement de ces pluies diluviennes qui touchent l'Afrique de l'Est depuis octobre, elles ont fait plus de 300 morts à cause du changement climatique causé par l'activité humaine, selon une étude scientifique publié jeudi. En visite à Washington, le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a exhorté le Congrès américain à approuver un financement financier pour l'Ukraine, soulignant l'importance du soutien militaire et économique. Lors du forum de la sécurité d'Aspen, Cameron a mis en garde contre les conséquences favorables à Poutine et Xi Jinping si l'enveloppe budgétaire n'était pas votée, affirmant que cela bénéficierait uniquement à leurs intérêts.